On a peut-être d'autres bonnes nouvelles au Québec. Est-ce que le Québec va être l'endroit qui va découvrir le traitement pour la COVID-19 et ainsi le transformer, ce virus-là, en un simple virus qui tue presque pas de monde et qui pourrait nous permettre donc de déconfiner une fois pour toutes l'ensemble de la planète? C'est le pari que fait l'équipe du docteur Jean-Claude Tardif de l'Institut de cardiologie de Montréal avec l'étude Colcorona, donc avec la colchicine. Tu sais, c'est notre chouchou depuis le début de la pandémie. Là, ça, c'est la troisième fois qu'on lui parle. Et à chaque fois, on est de plus en plus positif. Puis je me demandais, ça fait quand même la dernière fois qu'on a parlé au docteur Tardif, c'est au début du mois d'avril. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Des fois, tu sais, en voyant le virus évoluer, en apprenant davantage sur le virus, peut-être qu'on est moins confiant. Ça semble être carrément le contraire. Docteur Tardif est en ligne. Docteur Tardif, bon matin.
Bonjour.
D'abord, où est-ce qu'on en est rendu pour l'étude en tant que telle?
Ben écoutez, les choses vont quand même bien là. Vous avez probablement vu qu'on a eu des appuis majeurs là de la Bill Gates Foundation, des instituts nationaux de santé américains qui croient que l'étude Colcorona, comme vous l'avez mentionné, est très importante. Et ben l'autre nouvelle, comme vous l'avez dit, il y a de plus en plus de données qui montrent que les gens qui ont cette fameuse tempête d'inflammation, là, parce que c'est mesurable dans le sang, ça, ben, ces gens-là sont à beaucoup plus haut risque d'être hospitalisés puis d'avoir des complications graves. Alors, on est encore plus optimiste à cause de ça que l'étude pourrait être positive, mais il faut évidemment le prouver.
Ouais. On voulait recruter au départ 6000 personnes. On pensait peut-être être bon pour le faire, de ce que je comprenais au départ, d'ici la fin du mois d'avril. Là, on parle de la fin du mois de juin et visiblement, là, ça ne sera pas 6000.
Alors, ben, il est possible qu'on ait des résultats avant la fin juin. Donc, réaliser qu'il faut quand même avoir suivi les patients lorsqu'on a on a recruté les patients. Donc, on pourrait avoir des résultats préliminaires avant la fin juin. Il y a un comité externe de l'étude qui regardera aux environs de ces dates-là les données, puis ils nous donneront leurs recommandations.
OK. Donc, l'équipe, en fait, qui travaille actuellement, c'est un peu une bulle fermée. Puis à tout moment, il y a un comité indépendant qui pourrait dire « Pesez sur pause, on va aller voir les résultats ». Concluant, bon, on arrête puis on recommande le traitement. Non concluant ou on pourrait faire le contraire aussi ou juste continuer l'étude. C'est ce que je comprends?
Oui, c'est pas mal ça. À la différence qu'ils ne le regardent pas nécessairement à ce moment. Normalement, on s'attendrait qu'ils regarderaient les données vers la fin juin. Donc, dans un peu plus qu'un mois, là.
Un médicament comme le vôtre, là, la colchicine là, dont on est en train de faire l'étude, est-ce que si jamais l'étude est concluante et qu'on va de l'avant, est-ce que son impact peut être, comment je pourrais dire, comparable au remdesivir qu'on voit aux États-Unis ou l'hydrochloroquine dont on parle beaucoup? À quel point ce médicament-là peut changer la donne?
Bon, ben, très bonne question. Premièrement, l'hydroxychloroquine dont vous avez parlé, bien qu'il y ait un politicien aux États-Unis qui a dit qu'il en prenait, toutes les agences ont dit de ne pas faire ça. C'est un médicament qui, dans à peu près toutes les grandes études qui ont été conduites, n'a pas montré de bénéfice. Alors, l'hydroxychloroquine, comme l'a dit Santé Canada, l'agence européenne, l'agence américaine, ne devrait pas être pris parce qu'il n'y a essentiellement pas de bénéfice et il y a des risques. Pour ce qui est, comme vous l'avez dit, du remdesivir, il y a eu effectivement des résultats encourageant, mais là, faut mettre les choses en perspective, c'est-à-dire ce qu'ils ont vu dans cette étude-là. Premièrement, ils ont pris des patients déjà hospitalisés et il n'y avait pas de différence de mortalité, mais ils ont montré que les gens étaient hospitalisés 11 jours au lieu de 15. Alors bon, c'est bien, mais c'est sûr que je vous avoue que nous, ce qu'on vise, c'est plus que ça. On espère réduire le nombre de patients qui vont être obligés d'être hospitalisés ou qui vont décéder. Alors, pour répondre directement à votre question, c'était bien les données du remdesivir, mais j'avoue que nous, on vise pas mal plus haut que ça.
OK. Dans votre étude, vous recrutez 40 ans et plus. Est-ce que ça veut dire que votre médicament serait réservé pour les cas plus à risque et de 40 ans et plus, ou on donnerait ça de manière universelle?
Excellente question. Ben nous, pour démontrer l'effet d'un médicament, ben il faut évidemment que dans le groupe contrôle, il survienne des événements. Puis des événements sont malheureux, des hospitalisations, des intubations, des décès. Et comme vous savez, les patients jeunes, sauf de rares exceptions, n'ont pas de complications graves. Alors, pour les besoins de l'étude, c'est en fait, le sens de votre question, je pense que vous avez tout à fait raison, là. Dans le contexte de l'étude, on a pris des patients plus âgés ou qui avaient des facteurs de risque, des diabétiques, des patients qui ont de la haute pression, des asthmatiques, mais on pourrait facilement imaginer que dès que l'étude serait complétée, que les professionnels de la santé et que les patients voudraient être traités pour éviter des complications, même si, rêvons un peu, même si un jeune n'est pas hospitalisé ou ne décède pas, cette maladie-là est quand même pas agréable, là. Souvent, les gens sont malades d'une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Alors, si le médicament pouvait en plus atténuer les symptômes, ben je pense qu'on pourrait facilement penser à étendre les patients traités à ceux qui ont moins de 40 ans.
Comment ça fonctionne avec la Fondation de Bill Gates? Comment vous avez réussi à attirer leur attention? Est-ce que c'est parce que votre médicament est tellement prometteur qu'il pourrait mettre fin à leur plan de domination du monde?
Ah, mon Dieu!
Est-ce que c'est pour ça qu'ils vous ont acheté?
Écoutez, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ni pour ce qui est de la Bill and Melinda Gates Foundation, ni pour les instituts nationaux de santé américains, ce qu'on appelle le NIH, pour ceux qui ne sauraient pas, le NIH, c'est le plus gros organisme de recherche au monde. Ils ont un budget annuel de 40 milliards de dollars par année. Bon, dans ces deux cas-là, ce n'est même pas nous qui les avons contactés, c'est ces deux organisations-là qui nous ont contactés en disant « On pense que vous êtes en train de faire une étude extrêmement importante et comment on ferait pour vous aider à terminer l'étude le plus rapidement possible. » Et c'est ça. Moi, je pense que ces gens-là, dont la Bill Gates Foundation, font beaucoup de bien, puis certainement, on est très heureux d'avoir leur appui. Ouais.
Dites-moi, comment s'est passée votre rencontre avec le premier ministre vendredi? Est-ce que c'était pour faire le point sur la recherche ou encore pour peut-être essayer de vendre l'idée à notre PM qui, je trouvais, personnellement, parlait pas beaucoup de la colchicine alors qu'on a une étude qui semble prometteuse ici. Peut-être le convaincre d'en parler davantage?
Bien, écoutez, de la même façon, premièrement, ça a été une rencontre extrêmement agréable, mais de la même façon que je vais parler de la Bill Gates Foundation, je sais pas moi qui a contacté le premier ministre ou son entourage. Je suis très fier de vous dire que c'est le premier ministre lui-même qui nous a contactés. Il était à Montréal vers la fin de la semaine dernière et il a dit qu'il avait une heure ou une heure et demie dans son agenda vendredi après-midi. Alors, il nous a appelé le jour avant. J'ai eu un tête-à-tête, je pense, très positif avec notre premier ministre. J'ai vu quelqu'un de réfléchi qui voulait savoir les détails, qui réfléchissait évidemment à ce qui va arriver au futur du Québec. Et donc, je pense que c'était tout à fait de mise à ce qu'on puisse lui faire une mise à jour. Et il s'est effectivement engagé à parler de l'étude Colcorona pour inciter, si vous voulez, les Québécois à continuer de participer.
Ça brasse fort dans le milieu des scientifiques. Il y a même des gens qui viennent de votre université qui ont critiqué vos travaux en disant que ça ne mènera pas. Comment vous avez pris ça quand vous avez vu ça dans les différents bulletins de nouvelles, qu'il y a des gens qui mettaient en doute peut-être l'efficacité même de la colchicine, qui disent que finalement, on va se rendre compte que ça ne changera pas grand-chose?
Ah, ben vous me prenez de court. Je savais pas que quelqu'un à l'Université de Montréal avait dit ça, d'une part. D'autre part, c'est tout à fait normal dans la communauté scientifique qu'il y ait des débats. Je peux vous dire, nous, on se sent très fort d'une étude qu'on vient de publier dans le New England Journal of Medicine avec la colchicine. Et c'est drôle parce que dans le passé, il y avait des gens qui s'étaient justement questionnés sur la colchicine pour prévenir les complications après la crise cardiaque. Et on a fait une étude de 4700 patients suivis pendant 2 ans. On vient de la publier dans New England Journal of Medicine et les résultats ont été assez spectaculaires. Alors, moi, je pense que ça vaut pas la peine de dire qu'il y aurait. L'important, c'est de faire l'étude dans les règles de l'art, puis on verra ce que les résultats montreront, mais on est, ce que je peux vous dire, très optimiste.
Ouais. Peut-être en terminant, il y a quelqu'un qui me rapportait qu'on essaie d'autres traitements, entre autres en Alberta. On teste beaucoup l'aspirine actuellement chez les patients qui éprouvent des symptômes de COVID-19. Vous travaillez à l'Institut de cardiologie. J'imagine que l'aspirine, c'est quelque chose que vous connaissez relativement bien. Beaucoup de patients atteints de maladies cardiaques en prennent. Pensez-vous que c'est une avenue qui peut être aussi intéressante?
Bien, ça veut dire que ça ne guérira pas tout. C'est qu'il y a des complications de caillots associés à la COVID. Nous, on pense que ces complications-là de caillots sont aussi dues à la tempête inflammatoire. Maintenant, vous avez vu, il y a des gens, il y a des cailloux qui surviennent dans le cœur qui mènent à des crises cardiaques, il y a des cailloux qui mènent à des AVC. Et donc, il y a des gens qui évaluent les anticoagulants et des médicaments qu'on appelle des antiplaquettaires, là, qui empêchent les plaquettes de coller dans le sang, comme l'aspirine. Je vous dirais, donc, il faudra bien voir ce que ça montre. L'aspirine est indiquée actuellement chez des patients qui ont déjà fait une crise cardiaque ou des gens qui ont déjà fait un AVC. Ça, on le sait. Maintenant, quand l'aspirine a été testée chez des patients qui n'avaient pas déjà eu un problème cardiaque, ce qu'on a vu dans le passé, à peu près de façon invariable, c'est que, oui, on diminuait un peu les complications cardiovasculaires, mais on augmentait de façon substantielle le risque de saignement de l'estomac, entre autres. Ce qui fait que maintenant, quand les patients n'ont pas de problème cardiovasculaire, généralement, on ne donne plus d'aspirine. Il faudra voir ici, dans le contexte à court terme pour la COVID, si ça fonctionne. Moi, je pense que c'est tout à fait normal que plus il y a de groupes scientifiques qui regardent les choses de façon différente, ben plus on va savoir avec des vraies données solides ce que ça montre. Maintenant, moi, mon seul commentaire là-dessus, c'est que il faut faire des études de qualité, pas des petites études de 25 patients ou 100 patients, pour avoir des réponses définitives à donner à des gens comme vous, aux patients, puis au système de santé. Il faut arriver avec des réponses définitives, pas des à peu près. Ouais. Donc, il faut faire des études de qualité.
En gros, en attendant la colchicine, ce serait peut-être pas une bonne idée, quelqu'un qui est atteint de COVID, de dire « je vais aller m'acheter de l'aspirine, j'en prends une par jour ».
Non, vraiment pas. Vraiment pas.
OK. Docteur Tardif, merci beaucoup, puis en espérant avoir des bonnes nouvelles d'ici la fin du mois de juin.
C'est notre souhait, puis à bientôt.
Merci. Docteur Jean-Claude Tardif, donc, de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui dirige cette recherche-là sur la colchicine.
Qui attire l'attention.
Qui attire l'attention partout dans le monde. Donc, bon, je pense que tu l'as bien exprimé, là. Les théoriciens de la conspiration diront que Bill Gates et Melinda Gates ont acheté l'étude, puis que le gouvernement aussi, pour être sûr que ça donne pas de résultats parce qu'on veut dominer le monde. La réalité, c'est que c'est le contraire. C'est qu'on va être capable de recruter davantage de monde parce que là, ça nous donne des moyens financiers, des moyens politiques également, d'aller plus vite.
Ce qu'on espère aussi, c'est de pouvoir rendre le produit disponible. Et dans des précédentes entrevues, le docteur Tardif nous disait que c'était un médicament qui était cheap, facile à produire, qu'on en avait partout, que pas mal tout le monde était capable de se mettre à en produire en bon volume.
Oui.
Donc ça aussi, c'est un aspect intéressant, parce que t'as beau avoir le médicament du siècle, si au bout de la ligne, le médicament fonctionne, mais que ça te prend un an à produire les doses nécessaires, puis que tout le monde en manque, puis que tout le monde se jette dessus, puis que les prix n'ont pas de bon sens.
Ah, puis pour ceux qui pensent, en passant, que Bill Gates s'investit sur un médicament prometteur parce que ça va y rapporter beaucoup d'argent, la colchicine, c'est un vieux médicament qui est libre de brevet, là. Donc, j'avais vérifié en passant pour mettre mes billes là-dessus au mois de mars. Je m'étais dit, ben, si jamais c'est un médicament, tu sais, qu'il y a encore un brevet, tu achètes une coupe d'action de la compagnie, puis si jamais ça marche, ça grimpe en fou.
Ben non.
C'est
un vieux médicament.
C'est libre de brevet. Fait que personne qui va vraiment faire d'argent avec ça plus qu'un autre. Alors, Bill Gates n'a pas d'investissement qui va croître avec ça nécessairement non plus.
C'est la raison pour laquelle c'est une drogue qui serait accessible.
Ben oui.
C'est quelque chose qui serait rapidement mis en production et ça nous permettrait de pouvoir procéder à un déconfinement qui est peut-être en accéléré. En tout cas, moi, c'est mon chouchou depuis le début de la crise.
Ben
je sais qu'il y a des gens qui ont comme chouchou Medicago qui sont tout aussi valables en passant. Là, eux ont commencé leur test là, avec le vaccin. Eux autres, c'est un vaccin. Il y en a qui en ont fait leur chouchou puis qui en parlent beaucoup. Puis c'est correct, là. Mm-hmm. Mais sans dire que je préférerais quasiment un médicament, puis je vais te dire pourquoi. Parce que je ne suis pas un anti-vaccin.
Mais des vaccins qui sont développés trop vite, ça te fait peur.
Mais je ne suis pas un pro-vaccin développé en bas de 18 mois. Là. Pas que ça me fait peur, mais j'aime moins ça. Tandis que si on avait un médicament, ben on pourrait se dire, regarde, on travaille toujours sur le vaccin, mais on va se donner du temps.
Qui réduit, mettons, les risques de 90%.
C'est ça.
Tu sais, vraiment quelque chose de majeur. Là. Tu te dis, bon... On transforme, puis l'objectif est celui-là, de prendre la COVID-19 et de la transformer avec un médicament en simple rhume. Là. Tu prends ça, tu n'auras pas de complications.
Puis là, tu vas avoir l'immunité collective qui va s'ajouter à ça.
Exact.
D'ailleurs, le docteur Arruda était très intéressant hier sur l'immunité collective. Hein?
Mm-hmm.
Ils sont en train de se rendre compte qu'il y en a une. Ils ne veulent pas s'avancer pour la qualifier, mais elle pourrait être au-delà de 6 mois.
Bien, c'est au-delà de 6 mois, on pourrait prévenir une deuxième vague.
Ça commence à être intéressant. Donc, tu sais, ça avance tranquillement, pas vite. Les gens commencent à avancer, on a de l'info. Le nerf de la guerre dans cette pandémie-là, c'est l'information.
Oui.
C'est le data. Mais pas le data, l'information où vous écoutez les nouvelles. Là. L'information, les études.
Sur le virus.
Les études, les recherches.
Ce qu'on découvre sur ce virus-là, qui était une maladie pulmonaire au départ, qui est rendue une maladie systémique, littéralement, là. Qui peut causer, tu sais, que divers visages, donc selon les gens que ça atteint, causent des symptômes qui sont différents.